Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Merci, 500 fois merci aux lectrices et lecteurs qui se sont mobilisés au printemps dernier pour que vive le ravi. Et 1000 fois merci à celles et à ceux qui s'abonneront ces prochaines semaines et fêteront ainsi 18 ans d'indépendance, d'enquête locale et de satire. Scoop, en novembre, nous allons publier un 200e numéro. Mais revoilà tout de suite, sans attendre, pour une nouvelle saison, la Grande Tchatch, l'émission du ravi sur la grenouille. Au micro, pour vous servir, Michel Guéraud, du journal régional Pas Pareil, qui ne baisse jamais les bras. Et avec nous, dans ce studio, un invité qui ne lâche lui aussi jamais l'affaire, Kamel Guémari, leader de la lutte syndicale puis citoyenne du McDo Saint-Barth à Marseille, pilier de l'après-m, le futur fast social food des quartiers nord. Mais avant de grandement tchatcher, présentons notre invité. Vos amis Kamel Guémari rivalisent en lyrisme lorsqu'ils font votre portrait. Vous seriez donc, selon eux, à la fois le Che Guevara, j'arrive même pas à le dire, le Che Guevara des McDo, l'abbé Pierre des quartiers populaires, le Spartacus des luttes syndicales, le Don Quichotte du mouvement social, le Gandhi de l'aide alimentaire, et j'en oublie. Vos adversaires ne sont pas en reste dans les superlatifs, eux vous traitent plutôt de squatteurs, de délinquants, de voyous, rien que ça. Vous êtes avant tout un enfant des quartiers nord marseillais et à pied, ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Vous y êtes né en 81 à la cité des Créneaux et vous avez grandi à la Savine. L'AFP affirme que vous auriez pu connaître une carrière pro de footballeur avec une sélection dans l'équipe olympique algérienne. Le Bondy Blog raconte que le travail vous a évité de sombrer dans la délinquance. Votre premier boulot, en tout cas, vous le décrochez mineur au McDo Saint-Barth comme équipier. Vous avez 17 ans et nous sommes alors en 98. Vous y resterez plus de 20 ans en grimpant tous les échelons jusqu'à devenir directeur adjoint. Seulement, vous avez aussi le goût des combats collectifs et de la justice sociale. Syndiqué à la CGT puis à FO, vous menez de nombreuses batailles en obtenant notamment une prime du 13e mois, avantage étendu à l'ensemble des fast-food français. Saint-Barth devient un symbole jusqu'aux USA et un repère pour de nombreux salariés précaires exploités par la multinationale. Difficile de croire au hasard, lorsque McDo décide en 2018 de fermer le restaurant au prétexte qu'il n'est plus rentable. Désespéré, vous menacez de vous immoler par le feu pour dénoncer cette situation. Avant, heureusement, de préférer souffler sur une autre flamme, celle d'une lutte du pot de terre contre le pot de fer afin de refuser une liquidation judiciaire. Une lutte XXL durant 2 ans avec occupation des locaux. En décembre 2019, malgré tout, la liquidation est prononcée. Mais l'occupation se poursuit et le combat prend une nouvelle dimension. Durant le premier confinement, alors que les pouvoirs publics brillent par leur absence à Marseille, Saint-Barth devient l'épicentre d'un mouvement autogéré pour répondre à l'urgence sociale. Et en 1 an, 100 000 personnes sont secourues et jusqu'à 2 000 familles par semaine reçoivent des colis d'aide alimentaire. Vous militez désormais au sein de l'après-M afin de créer, toujours dans les locaux du McDo, un fast social food. Il pourrait prendre la forme d'une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, réembauchant notamment les anciens salariés. Et nous sommes tous invités à prendre notre part du peuple en souscrivant 25 euros pour rassembler les fonds nécessaires au lancement du projet. Vous voilà donc bâtisseur, mais bien entendu ce n'est qu'un début, le combat continue. Une réaction peut-être à ce portrait?
Un excellent portrait, ça me réjouit. Mais juste, je voulais juste rectifier un mot qui est souvent stigmatisé quand on dit squatteur ou on n'a pas squatté. Le deuxième mot c'était.
Alors je sais plus, voyou, c'est ça. Bon, on vous a traité de tous les noms d'oiseaux, je crois. Hein, donc
un peu. Donc nous. Au sein de ce lieu, on a
délinquant.
Délinquant. Donc, on n'a jamais. Eh ben, je suis content et ravi d'être un délinquant, de pouvoir essayer de préserver le travail. Si c'est une délinquance, eh ben, comme on condamne. Mais je dirais que squatteur, c'est horrible d'entendre le mot squatteur parce que il y a eu une réquisition citoyenne. Mais avant la réquisition citoyenne, il y a une préservation de l'outil de travail. Donc. On n'a pas squatté, on a préservé l'outil de travail. On a préservé l'outil de travail dans une zone là où il y a une fracture sociale, là où il y a un délaissement, là où on nous pointe du doigt au lieu de nous tendre la main. Nous, on a essayé juste de pas vouloir vendre notre dignité, pas essayer de répondre que dans ces quartiers nord, qu'il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui ont envie de s'en sortir. Sinon, on pourrait stigmatiser Zidane. On pourrait stigmatiser le pianiste ou d'autres artistes qui sont sortis de ces quartiers-là, de ces quartiers nord, de ces quartiers où on est fier. Je suis fier d'être né dans ces quartiers. Je suis fier de vouloir finir ma vie dans ces quartiers pour pouvoir essayer de tendre la main aux plus souffrants.
Est-ce que vous pensez que parfois, dans une lutte sociale, syndicale, la fin peut justifier les moyens? Par exemple, José Bové est venu vous soutenir. Alors, c'est une personnalité qui avait démonté symboliquement un McDo en chantier parce qu'il voulait lui aussi faire valoir une cause.
Quand on regarde l'histoire de la France, elle a commencé par un démontage, la place de la Bastille. Donc, c'est un acte symbolique pour reconstruire. Donc, José Bové a démonté un McDo par un acte symbolique. Et 21 ans après, il y a une petite graine qui a émergé, qui est née dans ce McDo, dans ce territoire, dans une ZAD, mais pas une zone à défendre, mais plutôt une zone à développer. Et on est fiers et contents que José Bové est venu nous voir et nous féliciter et dire, je crois à ce monde, je crois au monde de l'après-McDonald's, qui est un monde de partage de richesses, d'entraide et de valorisation humaine. Parce que McDo dit « Venez comme vous êtes, venez dépenser votre argent chez McDonald's ». Nous, on a pris cette phrase, on l'a culbutée. On l'a remis l'être avant le paraître. On a mis « Comme vous êtes, vous venez ». D'abord l'être humain. Parce que la richesse, elle se produit par l'être, pas par le paraître.
On va revenir sur ça, sur cette notion de squatter, sur l'histoire de ce mouvement social XXL, atypique et symbolique, et qui devient un symbole bien au-delà des frontières marseillaises. Mais le moment là, qui est le vôtre, celle de la part du peuple, une souscription, j'en ai parlé, hyper ambitieuse. Vous recherchez 50 000 parts à 25 euros pour lever 1 250 000 euros.
Pour essayer de prouver que l'entraide, elle existe, et elle a toujours existé, surtout et en plus dans nos quartiers. Dans ces quartiers-là, le voisin, quand il n'a pas de sel, il tape à la porte de l'autre voisin, et ainsi de suite, manque d'huile, il y a de l'entraide. Et on a juste voulu montrer ce qu'on aimerait pour nous, on le voudrait d'abord pour notre prochain. Et quand il y a eu ce confinement, quand il y a eu cette pandémie, notre cher président nous a dit « nous sommes en guerre ». Oui, nous enfants des quartiers nord, nous enfants de misère à leurs yeux, alors que nous sommes et nous avons une richesse qui est inestimable, parce que quand on veut chercher cette richesse, on va la chercher dans des quartiers défavorisés pour pouvoir essayer de faire le ménage chez certaines personnes, ou pour pouvoir essayer de garder leurs enfants, ou essayer de, etc. Bon, on va pas s'étaler. Et de leur montrer que ce lieu, c'est un lieu extraordinaire et c'est un lieu de diversité, c'est la place du village et on n'a pas envie de la perdre et on souhaiterait juste pouvoir partager notre expérience, le bien et l'entraide et la richesse, elle devrait aller aux plus souffrants. C'est pour ça que sur 50 000 parts, il y a la part suspendue, c'est une part par personne de 25 euros. C'est lui qui donne plus, on suspendra la part et on ira voir nos amis de la rue, qui sont les SDF, à qui on les viole chaque jour à travers notre regard, à travers notre posture, qui sont en souffrance pendant le confinement. Il n'y avait personne pour eux, parce que tout était fermé. Il y avait un lockout dans le pays. Et on les chassait pour qu'ils ne soient pas visibles. Nous, eux, ces personnes-là, on souhaite qu'ils soient propriétaires de ce lieu, qu'ils font partie de l'aventure, les personnes qui viennent chercher les colis alimentaires. Moi, en tant qu'enfant, ma maman, j'allais avec ma maman à l'époque aller chercher des colis alimentaires que ce soit au Secours Populaire ou au Restaurant du Cœur. Je me dis, merde, c'est horrible de tenir une queue, de se mettre devant pour faire la manche. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il va falloir que nous, la misère, on apprend à la combattre au lieu de la dénoncer et pleurer sur notre sort.
Concrètement, vous vous engagez, un quart des fameuses 50 000 parts seront des cotisations suspendues. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de donner ces 25 euros pour qu'ils soient effectivement propriétaires de ce projet. Alors je crois que vous êtes à 5 000 à peu près, hein, c'est ça?
Exactement.
Bon, c'est bien, c'est pas rien, hein, c'est ça, c'est 125 000 euros déjà.
C'est bien, mais c'est loin.
C'est loin.
C'est loin parce que on a eu le rachat du lieu par la mairie, parce que nous avions eu 4 ordonnances d'expulsion et un ordre de démolition. Donc on s'est dit, merde, ce restaurant, en 92, ils l'ont mis en place pour pouvoir dynamiser l'emploi dans des quartiers. Ça a été un pari. Ils nous ont vendu un rêve. Ce rêve-là, quand on a commencé à essayer de le réaliser, en 92... En 2019, ils dynamitent l'emploi. Ils dynamitent l'emploi là où on a besoin d'eux, alors que ce lieu fait partie d'une zone franche, alors que les pouvoirs publics les ont aidés à travers l'aide à l'embauche, à travers la TVA. Aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir qu'ils puissent continuer d'exister dans ces territoires. S'ils avaient l'image qui reflète. Donc pour moi, quand on voit chaque publicité qu'il y a à la télé, l'enfant aujourd'hui, on l'a privé de pouvoir accéder à un McDonald's. Après, aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de McDo. C'est l'outil de travail, nous, qui nous est importé. Cette place du village, venez comme vous êtes, venez dépenser votre argent comme vous êtes, c'est horrible de mentir aux gens, de les manipuler. Mais à travers cette manipulation, nous, on a essayé de tirer des leçons, profiter de chaque richesse et de se dire que dans ce restaurant, on est fiers et contents que la diversité, elle existe.
Alors effectivement, Benoît Payan, les auditeurs sont peut-être rendus compte que le maire a changé à Marseille. C'est plus Gaudin, hein, on vous avertit, pour ceux qui reviennent de vacances. Benoît Payan, le nouveau maire, est venu vous rendre visite au McDo. Et une fois élu, a proposé le principe donc du rachat à McDo du bâtiment pour, si j'ai bien compris, participer, vous donner le droit d'occuper le lieu sous une forme dont on ne sait pas très bien encore quelle sera cette forme. Et donc cet été au conseil municipal, le conseil municipal a acté cette décision. C'est une bonne nouvelle pour vous? Parce que c'est pas au début l'idée, c'était d'acheter, hein, le bâtiment pour 650 000 euros, si j'ai bien suivi.
On est content et fier que le maire a fait un acte inédit, qu'a pris ce courage-là de pouvoir tendre la main à une jeunesse et de donner un espoir là où on a oublié ces personnes-là. Donc on le remercie d'avoir fait son travail. Mais nous, on souhaiterait ne pas être les futurs danseurs ou danseuses politiques non plus. Donc on essaye de laisser un héritage derrière nous, parce que moi j'ai sacrifié le temps de ma vie. J'ai sacrifié ma vie, mes enfants, ma famille, pour essayer de préserver ma dignité. C'est pas pour qu'elle puisse être demain un enjeu politique. Parce que je ne souhaiterais pas être le futur salarié de ce lieu-là, même que j'ai partagé 23 ans de ma vie. Je souhaite laisser un héritage. Je souhaite continuer juste être un simple citoyen bénévole au sein de ce lieu et me réjouir que mes frères et sœurs qui puissent aller travailler, au lieu que on les laisse à l'abandon, elles puissent vendre leur dignité pour pouvoir acheter, pour pouvoir gagner leur subsistance, ou tenir des blocs et finir dans un cimetière ou entre quatre barreaux. Il est là mon combat, il est là notre combat, il est là le combat de l'après-m, parce que si on aurait pu se battre pour nous, on serait limité à nous, on se limitera à nous. Mais celui qui se bat pour son prochain, il n'a pas de limite et il dépasse ses limites. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cette lutte et à travers l'histoire, quand on regarde l'histoire de Saint-Barthélemy, quand on regarde l'histoire de ces territoires, et on se dit, merde, pourquoi on en est arrivé là? Mais c'est quand on regarde le comment du pourquoi, on comprendrait pas mal de choses. Quand cette jeunesse, elle ouvre, quand ils ouvrent leur frigo, que leur frigo il est vide, quand ils regardent leurs parents, ils sont en détresse sociale, quand ils accompagnent leurs parents chez des instituts qui les maltraitent, qu'on leur parle comme des clochards, comme des misérables, comme... il y a une colère, une haine que ces enfants-là se nourrissent et qu'ils ne puissent plus croire à cette société.
Nous, on va revenir, Kamel Gamari, sur les quartiers, leur malaise, la crise politique et sociale de ces quartiers, puisque c'est complètement lié au projet, hein, vous défendez. Mais je m'arrête encore sur cette décision de la mairie de préempter le lieu pour vous soutenir, pour soutenir le projet, mais qui pose des questions. Alors, je vais vous faire réagir à des propos qui ont été tenus au sein du conseil municipal par l'opposition, hein, LR en particulier. Je cite Catherine Pilla qui est une élue porte-parole au conseil municipal de l'opposition, à l'ancienne majorité. Et donc elle s'est adressée à Benoît Payan en disant « La véritable histoire, c'est celle d'un restaurant squatté. » Elle utilise ce mot. « Sans droit ni titre, vous avez décidé d'écrire la suite de l'histoire. » Plus la leur, la vôtre, vous leur avez vendu du rêve, vous cautionnez les squatteurs, monsieur le maire, donc vous voyez, le terme revient. Elle pose une question, toujours au conseil municipal, elle dit « Vous allez devoir chercher un délégataire de service public, est-ce que vous leur avez dit que rien ne leur garantit de rester dans les locaux du McDo, que vous allez devoir les mettre en concurrence avec d'autres ?»
Déjà, le mot squatteur, j'arrive pas à m'y faire, c'est horrible. On a préservé l'outil de travail parce que si on l'aurait écouté à cette dame, on aurait abandonné ce lieu, il serait occupé par d'autres. Le matériel, l'outil de travail, il y a des grilles qui font 15 000 euros, un grill, on en a trois. Je vous laisse calculer. Il y a des friteuses qui ont une valeur de 10 000 euros. La machine à glace, elle a une valeur de 20 000 euros. Il y a de l'argent. Donc, on a préservé l'outil de travail. On n'a pas laissé des personnes squatter, dégrader. Au contraire, McDonald's devrait nous payer. Ou cette dame-là qui parle au nom de notre argent, l'argent public, parce qu'elle est payée par notre argent. Moi, j'ai travaillé pendant 23 ans, donc j'ai cotisé à son salaire. Et elle se permet de dire squatteur, elle se permet de dire délinquants ou des personnes qu'on ne devrait pas défendre, alors que pendant tout le long de cette lutte, on a nettoyé ce restaurant. On a revégétalisé l'espace. On a essayé de contribuer à soigner notre image et à donner une leçon par des démonstrations, pas par des pleurs, pas par des cris, pas par une colère. On n'a jamais appelé à une manifestation pour essayer de perturber notre ville. Mais par contre, on a fait jouer des outils qui ce sont nos droits. Nous sommes dans un pays de droit. Nous ne sommes pas là en train de vouloir détruire, mais juste alerter ces personnes-là, alors que c'est à eux de faire ce travail-là. Nous, on a pris le courage de pouvoir essayer d'affronter et de le faire à sa place.
Alors par contre, elle met le doigt là où ça fait un peu mal. Vous en avez parlé déjà vous-même. Si je comprends bien, alors c'est un peu technique, on ne va pas perdre les auditeurs, mais vous souhaiteriez que la ville maintenant vous accorde un bail, alors le terme est barbare, amphithéotique sur une longue période, hein, 18 à 99 ans, je crois que c'est possible légalement. C'est-à-dire qu'il vous donne les clés pour des dizaines d'années, et qu'on n'en parle plus, pour avoir de l'indépendance, de l'autonomie. Et la ville hésite en disant bah, peut-être on ferait un bail précaire. Enfin. Donc les discussions en sont là
Les discussions, elles n'ont pas commencé encore, parce que McDonald's n'a jamais souhaité parler avec nous, n'a jamais souhaité être autour d'une table en face de nous. Donc elle parle avec la mairie. Nous faisons confiance à la mairie, parce que aujourd'hui elle nous a tendu la main. On va pas mettre la charrue avant les bœufs.
La mairie n'est pas propriétaire formellement encore. Je crois que c'est fin septembre.
Fin septembre, voilà. Exactement. Donc je pense que fin septembre on commencera des discussions sereines et saines pour essayer de réfléchir comment on peut laisser un héritage derrière nous qui ne soit pas un enjeu politique. Si le maire a fait cet acte-là, je pense que c'est un acte courageux. Et d'ailleurs, on en est content, mais l'aventure, elle n'est pas finie, l'histoire, elle n'est pas finie. Et aujourd'hui, on peut dire que l'avenir ne le prouvera si il y a une malintention ou pas. Nous, nous sommes sincères parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers de personnes qui soient en France ou en dehors de la France qui font partie de ce projet, qui croient en ce qu'on fait. Donc on souhaiterait que le maire puisse nous faire confiance, continue à nous faire confiance, parce que s'il a fait cet acte-là, ce qui nous fait confiance, qu'on puisse être un modèle social qui révolutionnaire, pas dans la révolution destructive, mais plutôt constructif, que quand on dit nous sommes une ZAD, une zone à développer, qu'on puisse donner une bouffée d'oxygène à un territoire, et si on est exemplaire, pourquoi pas créer une franchise sociale à but non lucratif, parce que la marque, on l'a déposée et on souhaiterait la donner. On l'a donnée avec une charte de valeur que d'autres personnes, que dans des territoires où ils ont perdu espoir, eh ben, y a un système qui pourrait être mis en place, que ces salariés puissent accéder à l'emploi et qu'ils puissent travailler. Et quand ils travailleront, ils sauront pourquoi et pour qui ils travaillent.
D'accord. Le message, c'est que malgré le rachat par la mairie, la souscription continue. La part du peuple, c'est utile. Alors, ça fait une économie d'être de 600 000 euros par rapport à l'objectif initial, mais il ne faut pas s'arrêter à 5 000 adhérents. Il va falloir toujours pousser et vous avez besoin du soutien d'une adhésion gens derrière ce projet.
Il nous faut 1 200 000 euros à peu près. Il y a 650 000 euros le rachat du lieu que la mairie nous a donné une bonne bouffée d'oxygène, nous a retiré cette épée Damoclès qui était sur notre tête. Mais il y a le restaurant à rénover et il y a un fonds de roulement qu'il faut mettre en place parce qu'on compte relancer l'activité avec 35 emplois, 35 salariés, en espérant que nous allons donner une leçon à cette multinationale. Notre but, c'est de pouvoir créer 150 postes de travail autour de ce restaurant.
C'est pareil, on va y venir hein, sur le projet, on va détailler. Toujours ce fameux conseil municipal cet été, hein, en pleine vacances, mais tout le monde n'était pas en vacances. D'autres propos, alors là, ça vient du RN, l'extrême droite, le Front National, l'ex-Front National, Cédric Dudieuzère, pour le citer, et qui s'adresse aussi au maire au moment de cette décision et qui dit « Vous faites savoir à toute l'extrême gauche anticapitaliste qu'il est possible de pirater, de collectiviser une entreprise avec la bénédiction des pouvoirs publics. C'est un signal désastreux envoyé aux entrepreneurs. Nous ne sommes ni à Cuba, ni au Venezuela. Vous n'êtes ni Castro, ni Chavez. Vous soutenez les squatteurs, tiens encore. Nous soutenons les entrepreneurs. »
Je pense qu'on lui a répondu par une vidéo « Nous sommes à Marseille, bébé. » Et comme il dirait mon père, quand on a été invité, nous, d'assister au conseil municipal, d'ailleurs, on remercie les personnes qui nous ont invités, on a assisté.
Vous étiez dans le public, hein, ce
on
moment-là.
Était dans le public. Et comme mon père me disait, quand j'arrivais, j'étais à table face à des invités, quand je racontais une connerie, il me disait, fils, tu as raté l'occasion de fermer ta gueule. Donc, ce restaurant, on a réussi à prouver, à travers des constats d'huissier, sur la disparition de la géolocalisation du restaurant, sur des ruptures conventionnelles à des salariés qui ne faisaient pas partie du restaurant, à hauteur de presque 500 000 euros, sur un lockout que McDonald's a provoqué pendant 2 mois, pas d'informatique, pas de livraison. Comment vous voulez qu'on puisse savoir et faire? Et d'ailleurs, on avait fait une vidéo, on avait montré les constats d'huissier, on avait montré la décision du tribunal sur l'interdiction de la vente du restaurant à l'e-food. Comment, à son âge, et avec notre argent, ils puissent nous insulter.
Il faut rappeler que le Front National, le RN, a été à la tête de la mairie du secteur dans lequel se trouve le McDo, hein, Stéphane Ravier, puis sa nièce, ensuite Sandrine Dangio.
On remercie qu'ils se sont cassés, parce que ni oubli ni pardon pour Ibrahim Ali. Mmh. 26 ans après leur départ, ou 6 ans après leur départ, fier et content, cette petite plaque qu'a commencé à voir le jour, l'avenue Ibrahim Ali.
Ibrahim Ali tué par des couleurs d'affiches.
Par des couleurs d'affiches du Front National.
Oui.
Donc, si c'est des donneurs de leçons, ces personnes-là, en 6 ans, notre arrondissement, oui, la voyoucratie, elle a accentué. Et si ce n'est pas eux qui ont contribué, qui nous ont mis dans cet état-là.
Et là, le choix de la nouvelle municipalité de nommer une avenue Ibrahim Ali, une demande de la famille depuis des décennies, vous saluez ce choix?
Bien sûr, je salue ce choix et je salue ses frères et sœurs qui ont lutté pendant 26 ans, parce qu'une lutte, c'est comme un vélo. Dire, on n'arrête pas de pédaler, parce que le jour où on arrête de pédaler, on perd l'équilibre. Ils n'ont pas arrêté de pédaler pendant 26 ans. Pendant 26 ans, en 95, il y avait une foule pas possible qui s'est levée, qui a manifesté. Et à fur et à mesure des années, ils se retrouvaient à 10, 5, 20, 30, 40, 100. Et ainsi de suite, ils n'ont rien lâché. Et cette avenue, elle a vu le jour. Et nous, on en est contents et fiers. Ça ne ramènera pas notre frère. Mais ça donne une leçon à certaines personnes que de leur dire qu'on n'a pas choisi d'être noir, ni chinois, ni blanc, ni arabe, mais on a choisi de vivre ensemble. On peut ne pas être d'accord, mais il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine.
Pourquoi autant de monde vote RN, FN dans les quartiers?
Non, on dirait que pourquoi il n'y a pas autant de monde qui vote dans les quartiers?
Oui, parce que beaucoup d'abstention, un taux d'abstention énorme.
Parce que, est-ce que vous pouvez me répondre à une question? Comment on peut s'intégrer dans le rejet?
Difficile.
Donc c'est difficile de voter.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Comme toujours dans cette émission, l'invité choisit une chanson et vous avez choisi Soso Maness, une chanson de son dernier album qu'on va écouter tout de suite.
La mort n'attend pas que tu sois un homme bien. Sois un homme bien et attends la mort. J'ai gaspillé le temps au creux de ses mains. Mais avec le destin, personne ne joue la montre. J'ai vu des seringues dans le bac à sable, là où s'amusent tous les enfants. Le toxico, je l'ai pris à coups de serein. Puis j'ai compris que c'était à cause de moi. Oui, à cause de moi, parce que je vends la mort. Le matin, le soir, à des heures différentes. Aucun scrupule dans mes méfaits. J'en ai rien à foutre tant que le bif y rentre. Le jobber fume un tarte patate. Le civil nous insulte de macaque. Ça passe du QHS au HSE. Je dépliche ce qu'échoua sur l'asphalte. Premier album, c'est rescapé. Je pose mes coronets sur la table. Quand je rapote au tu sens la vérité et l'authenticité de mes fables. Je vais pas pleurer sur notre précarité, mais montrer au monde qu'on est capable. Décider, inciter l'unité, comme mes trois grands frères du intouchable. Je reviens vous braquer, allez haut les mains. Je suis comme un croc sur la canne bière. Je vais rapper la rue et tous ses problèmes. De la bonne mère à la tour Eiffel, des labos de la jungle amazonienne, au pied insalubre de nos HLM. Y'a des traces de pure sur les billets crème.
Et dans la puce, des crises pour le week-end.
C'est sur un HSNL, tu es endetté. J'ai dit les volets, j'étais rapta. Avec Chétan, on a trinqué. Maintenant je décuve mon vécu et pleure quand ça va pas. J'ai trop vu de larmes le soir à l'hôpital. Trop vu de blagues sur les pierres tombales. Cette année le vent va tourner pour mes frères. C'est pour ça que cet album s'appelle Mistral.
Et je fais le tour, je repense à tout ce parti là-haut. Je vous le dis bientôt, c'est moi qui fais la météo. Fuck les rivaux, tu me penses rigole mais crois-moi je suis tellement triste. La vie d'artiste, je veux pas du succès, si c'est pour finir comme toi égoïste.
Sosomanes, Mistral, il fait partie de ces artistes nombreux qui vous soutiennent de près. Hein, Sosomanes, il était là cet été encore, je crois.
Ben oui, c'est un frère. Il a deux pas de notre restaurant. Il a grandi dans cette place du village, donc on l'a vu grandir. J'en ai 40, il doit être un peu plus jeune que moi. Fier de cet enfant-là qui a pu se débrouiller de soi-même pour pouvoir essayer de s'en sortir. Et aider cette jeunesse des quartiers nord, donner un coup de main à un territoire où là on en a besoin, et un espoir aussi qu'on peut s'en sortir par soi-même, même que on n'arrive pas à avoir des écoles d'artistes ou de chant ou pour pouvoir s'en sortir, on persévère, on essaye de résister, même qu'on passe par un parcours cabossé et abîmé, parce qu'on n'a pas le choix que de passer par là. Eh ben, je suis content de le voir là où il est, au lieu d'être sous terre ou dans un quartier et vivre la misère.
Alors, il fait le buzz, là, en ce moment. Un bad buzz, certains diront. Suite à un concert à la Fête de l'Humain, hein, vous étiez d'ailleurs.
On y était.
Avec la Préhem, hein, pour la part du peuple. Parce qu'il a fait chanter la foule. On déteste tous la police.
Il a dit une phrase. Tout le monde et le reste a dit de soi-même.
C'est un souvenir de manif, on entend souvent dans les manifs.
À la manif, on devrait sanctionner tout le monde. On a le droit de détester qui on veut, aimer qui on veut. Maintenant, il n'a pas appelé au crime, il n'a pas appelé à la haine. C'est une phrase de quartier parce que nous, l'émetteur et le récepteur, il est décalé. Se dire, des fois, quand on parle de la police ou des forces de l'ordre, moi, je parle... pas de l'uniforme, je parle des forces du désordre. Ces personnes-là, qui agissent avec passion. Quand on agit avec passion, on perd la raison. Et on se fait justice soi-même. Combien il y a eu des borniers, combien il y a eu des mains arrachées, combien il y a eu d'enfants dans ces quartiers-là, maltraités, frappés par des cons. C'est des cons pour moi. Parce que c'est des forces. Du désordre. C'est eux qui créent le désordre. Parce que, par leur cause, oui, on manifeste. Oui, on dénonce une violence qui ne devrait pas être. Nous sommes dans un pays de droit. Nous devons respecter même le délinquant. On l'a maîtrisé. Il y a un juge pour pouvoir le juger. Il ne doit pas subir une double peine. Et c'est ça qu'on dénonce.
Je ne l'ai pas mentionné dans le portrait, mais vous avez passé aussi un moment difficile avec un procès pour violence et insulte. C'était une condamnation en juin à 4 mois de prison avec sursis suite à une affaire que vous regrettez, hein, mais liée à un petit peu aux marges de votre activité militante. Vous faites appel de cette condamnation ou vous l'acceptez, vous laissez filer?
Je vais faire appel. Pour quoi faire? Pour clamer mon innocence? Pour prouver qui je suis? Je sais qui je suis. Juste, je demande à tout le monde de s'intéresser à ce dossier-là.
On va pas rentrer dans les détails, hein, mais...
Mais de pouvoir me mettre en comparaison immédiate 30 jours après un effet qui est mensongère. Ils m'ont collé racket, voile en bande organisée, homophobe.
Oui, vous avez été relaxé sur ce motif.
Oui, la seule connerie que j'ai pu faire, je suis qu'un simple être humain, j'ai perdu mes nerfs, j'ai mis une petite tape. Et ça, ça m'a coûté 4 mois. Alors que...
Sur le directeur d'un McDo.
C'est pas, sur le directeur d'un McDo que McDonald's lui a donné des plaintes de Paris. Qui est ce directeur? C'est un simple salarié, alors qu'il a réussi à avoir des plaintes de Paris, de Lyon, de Rouen, de pas mal, pour pouvoir donner une image et salir.
Il s'est toujours opposé à la lutte que vous menez depuis des années.
Cet homme-là a fait un harcèlement. Cet homme-là a essayé, tellement il a fait craquer une personne, elle s'est taillée les veines dans les toilettes de Grand Littoral. Et on n'en parle pas de ça. On ne parle pas de cet homme-là, on ne l'a pas sanctionné, on l'a cautionné. C'est sorti dans le journal de l'Humanité. Et c'est une dame que ça faisait 10 ans qu'elle travaille, qu'elle contribue à enrichir McDonald's, et on l'a laissée parce que c'est une dame qui était proche de la lutte. Et ça, pour moi, je ne pouvais pas accepter. Et une personne, parce qu'il y avait 2 salariés à côté de moi, il les a filmés pour aller les dénoncer à son patron. C'est normal que j'essaye de l'interpeller, de lui dire « Efface tes vidéos. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi ?» Donc, malheureusement, je ne dirais pas que tous les franchisés sont pareils. Mais ils nous ont mis un requin déguisé en dauphin. Quelqu'un qui était là essayer de détruire le modèle social qu'on a pu mettre en place. Quand il a emboucané ses salariés de dire « Il est où Kamel ? Il cherchait la provocation. » D'autres salariés ont répondu « Kamel, il est dans votre 13e mois. Kamel, il est dans votre prime. Kamel, il est dans vos heures de nuit. » Et ça, je me suis pas battu pour dire que je me bats, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été en souffrance, et je ne les pardonnerai jamais pour une seule personne. Que je me suis battu, on s'est battu pour pouvoir sortir des gens de prison, des gens du quartier, pour qu'ils puissent retrouver un sens dans leur vie. Et notre plus grande fierté, que ces gens-là ont pu fondre une famille, ont pu trouver une orientation ou un travail ou une évolution au sein du restaurant. Pour nous, c'est des personnes qu'on a réussi à gagner. Gagné par la paix.
Ce combat que vous avez mené, ces victoires aussi, là, on parlait du 13e mois, qui ont parfois été étendues à d'autres McDo. Enfin, c'était un symbole qui était insupportable pour cette multinationale. Vous avez commencé à intéresser, il y a eu des articles aux USA sur vos victoires. Il y a une énorme précarité. Hein. Vous êtes resté 20 ans dans un McDo, mais la plupart des gens y restent quelques mois. Sont exploités, s'en vont très vite.
C'est le deuxième employeur du secteur. Pas d'études. McDonald's, c'est extraordinaire, l'outil qu'ils ont, mais ils l'exploitent pas pour pouvoir en sortir l'être humain, de pouvoir qu'il puisse reprendre confiance en soi. C'est un modèle qui exploite l'être humain et les salariés, c'est de la chair à canon, et ça devient au profit de leur intérêt pour que cet argent puisse partir dans les paradis fiscaux. Moi, quand je vois ce jeune qui a perdu la vie, qui était près de moi, que j'ai essayé de le sortir, de pouvoir qu'il puisse travailler à la Blancarde, quand il savait que c'était un jeune qui était proche de moi, on l'a pris, on l'a jeté, on l'a maltraité, et qui s'est retrouvé à la rue, il n'y avait que la rue pour pouvoir l'accueillir. Et ce jeune-là, il a fini de se retrouver dans quatre planches. Il est mort dans le rond-point du marché aux puces. 47 balles. 47 balles pour moi. Ce jeune-là, quand j'ai entendu sa mort, je me suis dit, putain, quelle haine j'ai contre ces personnes-là. Ils ne se rendent pas compte les dommages collatéraux qu'ils sont en train de causer. Ils sont en train de, par orgueil, pour vouloir me faire du mal, ils ont essayé de faire du mal à toutes les personnes qui étaient autour de moi. Cette personne-là voulait réagir méchamment. Je l'ai interdit. Et j'ai interdit à tout salarié ou à tout jeune de quartier de pouvoir se mêler et salir notre image parce que nous avons des outils. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Et on le dit encore fiers de pouvoir leur répondre sagement et accompagner le menteur jusqu'à la porte de son mensonge.
Par rapport à la violence qui s'exerce dans les quartiers, Marseille, là, il y a une série noire depuis deux mois avec beaucoup de morts. Et une réponse avec le président de la République qui est venu pendant trois jours dans la ville présenter un grand plan pour Marseille. De plus, des annonces, beaucoup d'annonces sécuritaires avec 300 nouveaux policiers d'ici 2022, 150 millions d'euros pour un nouveau hôtel de police pour remplacer l'évêché, paraît-il, quelque part dans les quartiers nord, au nord de Marseille. Et puis il y a déjà aussi la promesse d'un nouveau commissariat dans le 13e, 9 millions d'euros. Ça, c'est quoi, enfin, votre regard sur ce type de réponse au problème des quartiers
On ne peut pas répondre.
500 nouvelles caméras de vidéosurveillance aussi dans le dispositif.
On ne peut pas répondre par la force. Les forces de l'ordre, quand on va essayer d'augmenter les moyens, on va mettre les moyens, on va augmenter des agents. Est-ce que cette jeunesse-là, on va leur donner du travail? Est-ce que cette jeunesse-là, elle va pouvoir essayer d'accéder ou de pouvoir être libre, de pouvoir circuler sans les pointer du doigt? Et en plus, ce qui est terrible, c'est au nom de qui on met ça? Au nom d'un président? Avec l'argent de qui ils vont être payés? Comment? C'est nous qu'on va payer ces gens-là pour qu'ils puissent nous surveiller? C'est pas de la surveillance qu'on veut. C'est de l'éducation populaire. C'est du travail. Cette jeunesse-là qu'on voit, qui s'entretue, ils préfèrent vivre un an, deux ans, dix ans comme des lions que 60 ans comme des moutons. Et ça, il va falloir qu'ils le comprennent. Et nous, on ne peut pas cautionner le mal qu'ils font non plus. On n'est pas d'accord. Mais quelle alternative on peut leur donner? Quel outil on peut leur mettre entre leurs mains? Et si on veut combattre cette délinquance, et si on veut rentrer dans les quartiers, c'est que par le travail, c'est pas par la force. On ne peut pas leur dire « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ça, ça peut pas marcher, parce que l'être humain a un laps de temps de vie. Et les cimetières ne sont pas remplis que des gens pauvres. Et aujourd'hui, on est en train de mettre ces personnes-là, ou cette population, dans le néant. Et quand on est dans le néant, et quand on nous rentre dans la tactique, on n'arrive pas à sortir à la hauteur de notre ventre, on peut pas rentrer dans la stratégie. Parce que la stratégie, c'est à moyen et long terme qu'on puisse réfléchir. Et eux, ils réfléchissent le jour par jour. Et quand je parle avec des enfants, pour moi c'est un enfant, 15 ans, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors l'école et tout ça. Il m'a dit, quelle école? Il m'a dit, moi j'ai le choix. Il m'a dit, j'ai pas le choix. Il m'a dit, soit la mort ou la prison. Ces jeunes-là ne rêvent plus. Ces jeunes-là n'ont plus d'espoir. C'est pas l'armée qui va rétablir la situation. C'est nous, en tant que citoyens. Et d'ailleurs, on a pris l'initiative avec El Mami Kanouté, c'est lui qui a joué dans Les Misérables, avec quelques grands frères des quartiers, que ce soit de la Castellane, Christian Enka, que ce soit Abderrahman qui est de la solidarité, quelques personnes de la Savine, de Bussurine, on est en train de faire le travail d'aller voir cette jeunesse, de pouvoir que eux-mêmes puissent libérer la parole. Mmh. Parce que l'arme du pauvre, c'est la parole.
Alors, vous avez une stratégie, vous avez un projet, vous avez ce fameux après-m, et il faut décrire un peu quand même tout ça, parce que c'est un vrai, ce fast social food, c'est un vrai restaurant hein, qui va être ouvert de 10h à minuit. Mais par contre, ceux qui n'ont pas les moyens pourront y manger à tarif préférentiel ou gratuit, c'est ça. Entre autres, alors il y aura 35 personnes au départ, des anciens salariés en partie, qui seront embauchés pour faire tourner le lieu. Mais ça sera aussi une entreprise d'insertion pour faire bosser justement... et puis d'autres trucs autour, c'est-à-dire l'idée c'est de conserver aussi la dynamique de bénévolat, les paniers pour l'aide alimentaire, tout ça sur le même lieu.
Déjà, juste, je suis gêné quand vous me dites vous.
Vous, le collectif, hein, parce que là, voilà, on invite KML, Guémaré aujourd'hui, mais vous n'êtes pas tout seul. Hein,
moi seul, je peux aller vite. Oui. Mais ensemble, on peut aller plus loin.
On va en parler aussi de donc, comment ça va être gouverné, tout ça.
Le plus important, c'est le collectif et c'est cette énergie, cette intelligence collective qui a autour de, qui rayonne autour de cet après-m. Parce que. Même le plus souffrant peut amener une pierre à l'édifice. Et de pouvoir essayer de réaliser à travers une souffrance et une douleur qui perdure depuis ces 40 dernières années, il y a eu des couleurs qui sont sorties. Il y a eu l'après-M. L'après-M, ça veut dire l'après-McDo, mais c'est pas que ça. Ça veut dire l'après, ça veut dire association de préfiguration pour un restaurant économique et social. Mmh. Dire tout ce qu'on a pu faire et donné au sein de ce lieu, on souhaite qu'il y ait un sens et que ce sens-là qui puisse perdurer à moyen et long terme. Ce Fast Social Food, il est là pour essayer de répondre à un besoin, parce que nous avons dans nos hôpitaux des urgences quand on a mal à la tête, aux pieds, au cœur, ou quand on est amputé, on passe par les urgences. Nous avons créé une urgence sociale. Nous sommes, comme il a dit notre cher président, un laboratoire. Mm-hmm. Mais nous ne sommes pas des rats. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ça sera jamais une entreprise comme une autre. Alors c'est la SKIC, hein, c'est le mot est barbare, hein, on n'arrive pas à le prononcer, mais concrètement ça veut dire que ça, il y a plusieurs collèges, il y a les membres fondateurs, vous quand je dis vous êtes les anciens salariés, hein, vous êtes 25 je crois, les usagers, les bénévoles, les fournisseurs, les donateurs, les collectifs publics et privés, les salariés, ça va être gouverné différemment, ça sera pas une multinationale pour le coup là.
Ah non. Ça sera, en espérant, une multisociale. ce qui est beau, c'est que il y a 5 collèges et c'est 5 collèges du bénévolat qui aura le droit de regard, de parole et de bienveillance, que ce soit les anciens salariés, dont pas moi, mm-hmm. parce que je souhaiterais juste être un simple bénévole.
D'accord.
Et les anciens salariés pour pouvoir donner leur expérience et la richesse qu'ils ont pu obtenir pendant 20 ans ou 27 ans d'expérience chez McDonald's. Et ça, cet héritage, il faut qu'ils le transmettent. Il y a les fournisseurs, il y a les pouvoirs publics. Donc voilà, on se dit comment on peut arriver à mettre notre énergie, notre intelligence et nos différences. Parce que souvent on a peur de l'indifférent, on a peur de l'inconnu. Eh ben, il va falloir essayer d'apprendre à partager le bien et de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'on risquerait d'être surpris et on est souvent surpris par l'inconnu, parce que on imagine qu'il va pas arriver, eh ben, ou qu'il n'est pas à la hauteur. Ben, aujourd'hui, nous, par notre démonstration, on a réussi à prouver ça, parce que quand je suis parti dans cette lutte, personne n'arrivait à me comprendre comment je me bats pour des personnes que je ne connais pas, que j'aime plus que moi-même, que je m'aime à moi-même. J'aime cette jeunesse ou ces gens que je ne connais pas, que je souhaiterais et rêverais qu'ils puissent accéder à l'emploi plus que moi, parce que je sacrifie mon temps de vie pour eux. Je ne m'inquiète pas pour les gens qui sont autour de nous, parce que je pense que ces personnes-là ont les mêmes valeurs que moi, ou nous avons les mêmes valeurs parce qu'on se bat pour notre prochain, parce que ce qu'on aimerait pour nous, on l'aimerait pour notre prochain, et la main qui est tendue ne doit jamais être au-dessus. La main qui donne ne doit jamais être au-dessus de la main qui est tendue. Parce que je croyais que je me permets de dire je croyais que j'étais un homme bien et un homme généreux. Un SDF, notre ami de la rue, mon ami de la rue que j'aime, m'a donné une leçon de vie. Quand on fait les maraudes, parce qu'on fait les maraudes, on fait les Uber solidaires, je fais un petit clin d'œil à Uber, parce qu'ils maltraitent leurs salariés aussi, pour les personnes qui sont en mobilité réduite et tout ça, on essaye de leur amener des colis alimentaires. Et quand on fait les maraudes, un être d'apparence, on peut l'ignorer, mais il a un cœur extraordinaire. Quand on a tchatché un peu 2-3 minutes avec lui, et lui a amené un repas, il nous a... On venait pour partir, il nous a rappelé, il nous a dit, revenez, revenez. Il nous a tendu 10 euros. Il nous a dit, tenez, tout. Il dit, mais c'est gratuit, tout ça. Je dis, mais t'es fou. Il m'a dit, non, mais ça me fait plaisir. Je dis, mais comment? Je dis, t'as des sous? Il m'a dit, non, j'ai que ça. Ben moi, si j'avais que 10 euros dans ma vie, ne pas savoir ce que je pouvais ou comment j'allais me nourrir le lendemain, j'irais peut-être conserver ces 10 euros. Je ne les aurais pas tendus. Et là, ça m'a mis une claque. Me dire, merde, je crois que je suis un homme bien, mais il y a toujours plus bien que moi.
Donc cet après-midi, il faut que des gens comme ça aient leur place au cœur de ce projet. Enfin, ça...
Dans cet après-midi, quand on dit, comme vous êtes, vous venez, il y a des personnes qui sont bien, d'autres moins bien. Nous, on essaye de tirer le meilleur de chacun. Et ne pas regarder son orientation sexuelle, sa couleur de peau, son passé. Ce qui compte pour nous, c'est le présent et comment on peut réfléchir ensemble sur le futur.
Le fait que vous deveniez un symbole, que beaucoup de monde viennent rendre visite. Alors, on dit souvent que déjà, à Marseille, et c'est vrai, hein, la ville est fracturée entre le nord et le sud, etc. Mais là, ce mouvement... Il y a aussi des militants associatifs qui se mobilisent à vos côtés, qui sont pas forcément du quartier, même si c'est le quartier qui porte quand même le projet.
Je me rappelle plus de quelle date elle est sortie cette chanson. Nous sommes les enfants des quartiers nord.
On peut le retrouver. Je crois que c'est une vingtaine d'années au moins, non?
20 ans. 20 ans qu'on pleurait. Et on disait que le Vieux-Port, c'est loin. Et c'est toujours aussi loin. Parce que quand on n'a pas besoin de faire une démonstration, regardons ces quartiers nord. Il n'y a pas de Vélib, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro. Il y a un bus. Et on met une heure et demie pour pouvoir accéder au centre-ville. Ils nous ont cloisonnés. On a à peu près 60 ou 70% de la population des quartiers nord qui n'ont pas accès à la mer, alors que la mer, elle est à 2 pas de nous, qui ne savent pas nager.
Alors Macron a promis aussi des 4 nouvelles lignes de tram, des lignes de bus à grande vitesse. Enfin là, il y a des annonces aussi là-dessus. Vous y croyez à ces promesses?
Ils nous ont appris à devenir des Saint Thomas. Donc, on essaye de croire à ce qu'on voit. Même qu'on sait que le vent, il existe, mais on ne le voit pas. Mais par contre, la seule chose que je pourrais dire aux citoyens qui habitent dans ces quartiers-là, ce qui est décidé, ce qui est fait sans nous, est réellement contre nous. Donc, il n'y a pas mieux que celui qui ressent la douleur sorti la vie pour mieux l'exprimer. Et aujourd'hui, lors de son avenue, son arrivée, quelles sont les personnes qui ont pu exprimer cette douleur? Quelles sont les personnes qui ont pu montrer ce désarroi qu'on vit dans nos quartiers? Quand on arrive dans un quartier, on le nettoie, parce que l'arrivée de notre cher président, peut-être cette poubelle qui traînait, ce déchet qu'il y avait dans la rue, ça risquerait de lui piquer aux yeux, en oubliant que ça pique notre vie, notre dignité. Ça nous humilie de vivre au milieu des déchets. Quand je monte à la Savine, j'ai vécu dans ce quartier-là, ce quartier qui est extraordinaire, par sa diversité. Il y avait des Chinois, des Sénégalais, il y avait de toutes races, les portes, elles étaient ouvertes. On a grandi dans un quartier qui est le plus beau quartier au monde, pour moi. Mmh. Dans la nature. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces responsables? Alors que nous, nous avons payé nos loyers pendant 20-30 ans. Ils ont décidé de détruire ces bâtiments et de reloger ces personnes-là dans d'autres quartiers. Mais ils ont oublié qu'ils ont causé un dommage collatéral. Alors quand un enfant, il arrive et s'installe dans un quartier qui n'est pas le sien, il va falloir qu'il prouve que c'est un bon homme, ou c'est un fou, ou il est plus fou que le fou. Donc, inconsciemment, ces bailleurs ont contribué à cette délinquance. Inconsciemment, ils ont contribué à cette fracture sociale de déraciner une famille, qui était une grande famille, de pouvoir les séparer et de leur faire payer un loyer plus cher que ce qu'ils payaient. Et ce quartier-là, toutes les hauteurs de la Savine, quand on monte en haut, on domine Marseille. Nous avons la forêt, la nature. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle revient à qui? Aux riches? Mais en tout cas, pas au quartier nord. Et quand on voit dans ce quartier nord, il y a une grande serre immense qu'on laboure, qu'on plante des tomates et des fruits, que ce n'est pas des jeunes des quartiers qui travaillent là-dedans, et ces fruits et légumes, ils sont vendus ailleurs. C'est une violence terrible.
Kamel Guémaré, l'émission arrive à son terme. Il y aura aussi des jardins partagés, je crois, dans le projet Après-M. Ça fait partie de ce qui est visé, il me semble.
Il y a les jardins partagés. Je dirais jardins nourriciers.
Nourriciers.
Parce que c'est des jardins nourriciers où on explique aux enfants qu'il faut qu'ils se refamiliarisent avec la terre. Et on souhaiterait mettre un jardin plutôt avec des plantes médicinales pour pouvoir expliquer à cette jeunesse qu'on peut essayer de se soigner autrement que ces médicaments.
L'après-m, la part du peuple, 25 euros, une souscription en cours.
Exactement, et comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Le 25 septembre, nous avons un tournoi interassociatif avec la Ligue des droits de l'homme, Emmaüs, l'après-m. Il y a pas mal d'associations au Z5 pour pouvoir essayer de répondre aux sinistrés qui sont en Algérie, essayer de revégétaliser la terre et essayer de porter une main forte à ce pays qui a perdu pas mal d'arbres, pas mal de plantes, pas mal d'animaux, de biens. Et voilà, force et honneur à toutes et à tous.
Beaucoup de combats, beaucoup des infos sur le Facebook. Et merci pour avoir participé à cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour une autre émission.
Merci.